Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Je suis heureux de recevoir au micro de Canal Académie Ernst Nolte, historien allemand, mais aussi philosophe. Né en 1923, Ernst Nolte reste d'abord attaché au débat sur les liens entre les fascismes, le communisme et les totalitarismes. Pour nous, Français, le nom d'Ernst Nolte est aussi associé à une relation épistolaire qui fit honneur au débat intellectuel à la Disputatio, celle entretenue avec François Furet peu avant sa disparition au mois de juillet 1997. Longtemps occulté par l'historiographie, c'est précisément François Furet, dans une note de son livre majeur « Le passé d'une illusion », qui sortit l'œuvre d'Ernst Nolte d'un silence dont il était la victime. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, si je puis dire, et son œuvre est désormais largement diffusée en France. Au mois de mars 2000, les éditions des Sirtes publiaient une de ses œuvres majeures, « La guerre civile européenne », préfacée par l'historien Stéphane Courtois, œuvre dans laquelle Nolte donne à la Révolution 1917 un caractère générateur, puisque les fascismes italiens et allemands y sont présentés comme la conséquence de la Révolution russe. C'était là la fameuse théorie du nexus causal, du nœud causal. 2 ans plus tard, c'était au tour des éditions du Rocher de publier les fondements historiques du national-socialisme, préfacé par le professeur italien Massimo Amato. Puis, aujourd'hui, c'est au tour des éditions Robert Laffont de publier une série de textes dans sa fameuse collection bouquins intitulée « Fascisme et totalitarisme au singulier ». Enfin, ce tableau littéraire ne serait pas complet sans l'évocation des entretiens d'Ernst Nolte avec un de ses disciples, un de ses élèves, Siegfried Gerlich, intitulé « Entre les lignes de front », publié là aussi aux éditions du Rocher. Ernst Nolte, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Votre œuvre, Ernst Nolte, n'est pas nouvelle pour les auditeurs de Canal Académie, puisque nous en avons déjà parlé, nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment avec Alain Besançon de l'Académie des sciences morales et politiques, mais aussi un homme que vous connaissez bien, Stéphane Courtois. Alors, Ernst Nolte, ma première question, ma foi, est une question très vaste. Peut-on embrasser votre œuvre sous un seul regard, ou bien pensez-vous au contraire avoir évolué au fur et à mesure des années? Existe-t-il, au fond, une œuvre d'Ernst Nolte?
Il existe une œuvre initiatrice, pour ainsi dire, une œuvre initiatrice de quoi toutes les œuvres, toutes les autres œuvres dérivent, en sorte d'enlargement. Ma première question était la question du fascisme. Le marxisme et le communisme étaient des objets aussi, mais non des objets étudiés très soigneusement. Quelque temps après, j'ai écrit un livre sur Marxisme et révolution industrielle en 83. C'était une grande et détaillée étude sur le marxisme dans ses relations avec ses prédécesseurs, avec les prédécesseurs anglais et français. C'est une chose assez connue, mais ce qui était originel dans mon livre était que j'ai traité aussi des conservateurs, non seulement économistes français, anglais, socialistes français et idéalisme allemand, ce qui est routine, mais l'importance de gens qui sont appelés aujourd'hui Tories, aux conservatives, avec un certain dédain. Mais ici, dans ce livre, il n'y a pas de dédain. Aussi, ces gens sont pris au sérieux. La prochaine œuvre, le livre sur la guerre civile en Europe. où le communisme, aussi le communisme soviétique, est pris avec beaucoup de détails. Et c'est une étude comparative de deux mouvements totalitaires, mais qui ne sont pas vus comme des parallèles, mais comme entre-agissants avec l'origine du communisme. Mmh. Le communisme est le phénomène originaire, le fascisme, national-socialisme sont des réponses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus que réponses. Elles ont une racine spécifique. Mmh. Mais la chose principale est, à mon avis, la réponse à la révolution russe et bolchevique. Il ne peut y avoir réponse sans un caractère révolutionnaire. Dans les yeux des communistes, le fascisme est simplement une réaction. Une réaction, quelque chose de surpassé, quelque chose que non est vraiment moderne. Mmh. Mais si tu dis le phénomène, on voit que il y a une sorte de révolution que est différente de la révolution communiste, mais néanmoins une tendance de changer beaucoup de choses. Mm. Non tout le monde, comme les communistes voulaient, mais beaucoup de choses. Mm. Révolutionnaire aussi, si vous voulez, contre-révolution, révolutionnaire. Un concept paradoxe.
Alors, nous allons revenir, Ernst Nolt, sur votre œuvre, bien sûr, la présenter plus en détail. Dans Fascisme et totalitarisme, qui vient donc de paraître chez Plon, l'éditeur, très opportunément, vous a demandé un texte en guise d'autobiographie, dans lequel on sent que trois éléments vont être importants dans votre jeunesse. Le premier élément, c'est votre non-participation à la guerre, pour raison physique. Le deuxième élément, c'est votre sentiment de vivre à un âge de clash des grandes idéologies. Et enfin, le troisième élément, c'est votre rencontre de Martin Heidegger. C'est entre ces trois événements que vous, Ernst Nolte, vous vous êtes formé?
On peut dire ça. Naturellement, ce n'est pas tout, mais ce sont des très importants. Et la non-participation à la guerre avait des conséquences. Un homme que non participait à la guerre et à l'expérience de toute sa génération pouvait se retirer dans l'ombre, pour ainsi dire, parce qu'il n'était pas à être pris sérieux. Mmh. Il n'a pas combattu. C'est une sorte de laïque, une sorte de personnage curieux. Mais mon idée était que tous ceux qui ont combattu étaient imprégnés de cette expérience, ne pouvaient fuir cette expérience. Cette expérience était si forte que pour ces gens, pratiquement, il était impossible de voir l'autre côté du phénomène. Tous les phénomènes historiques ont un autre côté. Et l'historien a la destination non seulement de polémiser contre certains phénomènes, mais d'apercevoir et étudier ce autre côté. Si je fais ainsi, c'est une sorte de justification de n'avoir ou de conséquences heureuses de n'avoir combattu. Premier, le second était Heidegger.
Oh. Le Heidegger était le troisième. Le deuxième point, c'était votre sentiment de vivre à un âge spécifique qui était le clash des grandes idéologies.
Je l'avais vu dans mon enfance, déjà. J'ai vécu comme enfant dans une petite ville de la région de la Roue qui était non importante, mais un endroit où les deux partis communistes et national-socialistes étaient très forts. C'était une fortezza, un forposte, une avant-garde. Oh. La petite ville était une avant-garde de ces deux mouvements. Mmh. Et je l'ai observé comme enfant, avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai trouvé, ce n'est pas la même chose. Ils sont semblables, très semblables. Et mon père, par exemple, ne les aimait pas tous les deux, mais les rejetait. Mais la différence était très intéressante. Je n'ai jamais été séduit de identifier les deux mouvements. Ils sont différents, ils sont hostiles l'un à l'autre, mais en comparaison à une société libérale, libertaire, ils appartiennent à un genre, au genre de totalitarisme. J'étais un enfant, je n'ai pas connu le concept totalitarisme, mais ce que j'ai vu était le commencement de cette conception. Le troisième était mon rencontre avec Heidegger. On dirait un jeune étudiant de 20 ans ne peut pas rencontrer le grand philosophe. Mais c'était une situation extraordinaire pendant la guerre. Il n'y avait pas pratiquement d'étudiants masculins. J'étais un ou deux ou trois. Tout le reste était des filles. Et d'autres, pratiquement, y trouvaient une relation à peu près étroite avec par hasard, non mérite. Nous avons parlé, par exemple, sur ma dissertation. L'idée va que j'écrirais une dissertation sous sa guidance,
sous sa direction.
Et le thème était Plotinos, un philosophe de l'Antiquité.
Puisque il faut rappeler à nos auditeurs que vous avez une formation de philosophe à l'origine. Vous ne vous dirigiez pas vers l'histoire.
Si, c'est vrai. D'autre côté, quand j'ai connu Heidegger, c'était pratiquement demi-année. Et il était disparu après ça. Et moi aussi était disparu parce que la guerre était en un état de finir. C'était les ultimes mois de la guerre. Dans ce temps, nous parlâmes sur la dissertation sur Plotinos, mais ce fut interrompu. Ça veut dire mes études n'étaient pas systématiques. Ils ne pouvaient pas être systématique par raison du temps, du temps de la fin de la guerre. Et c'est pourquoi je suis un peu, in Verlegenheit, un peu
embarrassé
de votre question. Je n'ai pas eu une éducation systématique en philosophie. J'ai été un philosophos, non un érudit philosophe. Et après la guerre, Heidegger n'était pas là. J'ai fait ma dissertation avec le disciple de Husserl, Eugen Fink. J'ai choisi le thème « Aliénation et dialectique dans l'idéalisme allemand et chez Marx ». Un thème tout à fait différent de Plotinos, mais pratiquement le commencement de mes études que Erano au commencement de mon livre « Le fascisme dans son époque ».
Alors, « Le fascisme dans son époque », quel est l'impact de ce livre? C'est ce que nous allons voir, Ernst Nolte, après une première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
« Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean Do, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Nous reprenons le cours de notre émission. J'ai l'honneur de recevoir Ernst Nolte qui vient de publier Entre les lignes de front, ses entretiens avec un de ses élèves et disciples, Siegfried Gerlich, paru aux éditions du Rocher. Et Robert Laffont vient de publier dans la collection Bouquins plusieurs de ses œuvres, plusieurs conférences, ainsi que son œuvre majeure, son œuvre initiale, parue en mai 1963, donc sur le fascisme en son époque. Donc le titre de cette collection de textes est « Fascisme et totalitarisme », une édition établie et présentée par Stéphane Courtois. Alors, Ernst Nolte, nous avons présenté un peu le contexte intellectuel de votre jeunesse, et avant de laisser les auditeurs, avant cette première pause, eh bien, vous évoquiez votre première œuvre initiale, le fascisme dans son époque. Et la première surprise, surtout pour nous Français, est que vous classez le mouvement royaliste, l'Action française, dans les mouvements fasciste, c'est, dites-vous, l'Action française appartient, dites-vous, au fascisme initial, et c'était un point d'ailleurs que François Furet vous contestait dans votre correspondance avec lui, donc une correspondance qui a eu lieu en 1995. Pourquoi Ernst Nolte avoir classé l'Action française dans le mouvement fasciste que vous appelez le fascisme initial?
Parce que il y avait quelques traits semblables. Par exemple, les étudiants d'Action française ont gestört, ont
troublé
des lections des professeurs, etc. Ils ont attaqué très véhément les Juifs. C'était un mouvement antisémite, mais non exclusivement antisémite. Mais l'idée principale pour moi était que sans doute ces royalistes étaient une part du grand mouvement contre-révolutionnaire français que a, entre autres, les membres de Maistre, de Bonald, etc. Et certainement, il y a grand Ähnlichkeit, grande ressemblance. Mais Charles Maurras disait « Je suis athée, mais je suis catholique ». Ça veut dire qu'il était une part de ce grand mouvement qui était pratiquement un mouvement chrétien, un mouvement « Io voglio sempre parlare d'italiano » per cui un mouvement pour lequel la Chiesa, l'Église, était très importante et que tous étaient des bons chrétiens, pour ainsi dire. Mais Maurras
ne l'était pas.
Ne l'était pas, ça veut dire que l'ennemi de ce mouvement, avait pris possession d'une part de son cœur. Et cette différence dans un mouvement que est un principe traditionnaliste. Cette différence, cette acception d'une idée révolutionnaire, c'est la différence. Si cette chose se passe, alors ce n'est plus un traditionalisme genuin, mais autre chose. Autre chose n'est le sens d'être le commencement d'un autre mouvement que, par exemple, Hitler était un anti-chrétien décidé. Lui a dit ces choses souvent. Le christianisme est le précurseur du bolchevisme. C'est une idée extrême. Maurras n'avait pas cette idée. Mais c'était déjà cette différence. Et cette différence est celle de laquelle le fascisme, que non est gens existants, mais seulement potentialita peut naître. Et j'ai différencié fascisme qui est d'un temps très tôt, fascisme
précoce.
De commencement,
oui.
Fascisme normal, que est le fascisme italien,
oui.
Et fascisme radical, que est le fascisme allemand.
Est-ce que c'est à cette époque, en travaillant sur le fascisme, plus que sur le concept de totalitarisme, le concept de fascisme renvoyant plutôt à l'historiographie marxiste, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez senti le nœud causal dont vous allez parler plusieurs années plus tard dans votre livre « La guerre civile européenne ». Est-ce que c'est en travaillant notamment sur Mussolini, qui était un ancien marxiste, que vous avez essayé de percevoir le lien entre le fascisme et le communisme ?
Dans ce sens, Mussolini était pour moi un personnage paradigmatique. Un des marxistes plus importants du temps avant la Première Guerre, qui devenait il duce del fascismo. Peut-être le personnage le plus intéressant du XXe siècle, par cette transition du marxisme au fascisme. Mais j'ai défini dans le fascisme, dans son époque, le fascisme. Fascisme est anti-marxisme qui veut développer une idéologie tout à fait contraire, mais semblable, et qui invente des actions qui sont agressives contre le marxisme, mais ont une ressemblance. Et c'est, si vous voulez, déjà un nœud causal. Sans marxisme, il ne peut y avoir fascisme qui est la réponse, mais une réponse très caractéristique et qui doit être décrite en grand détail, etc. J'ai essayé de faire ça dans mon livre.
Vous allez distinguer peu à peu dans votre œuvre, ce qui est très important, l'idéologie et les idées. Quelles sont les différences ou qu'est-ce qui distingue l'histoire des idées et l'histoire des idéologies? Vous vous placez sur l'histoire des idéologies.
J'ai toujours dit que je ne suis pas un historien d'idées, mais un historien d'idéologie, d'idéologie en pluriel. La différence d'idée et d'idéologie est que l'idéologie est une idée active, une idée qui veut être active, qui veut changer le monde, mais une idée comme idée ne veut pas changer le monde, certainement non pas des actions. Et cette différence est décisive pour moi que je traite des idéologies que je considère dans un certain sens comme la philosophie pour le peuple. Ça m'intéresse par son contenu philosophique qui est dans toutes les idéologies, même les idéologies très populistes, mais non pour les autres philosophes. Et non toujours les fondateurs des idéologies sont réellement philosophes, ont un certain sens philosophique, mais non sont philosophes. Et cette caractéristique est ce que m'a toujours motivé d'étudier ces phénomènes entre la politique vulgaire, politique de tous les jours, et la philosophie. Mais c'est un phénomène d'interaction.
Si. Est-ce qu'il y a aussi l'aspect religieux, puisque Raymond Aron parlait des idéologies du XXe siècle comme des faits quasiment religieux.
Il y a quelques versions de la théorie du totalitarisme. La plus connue est celle que dit « communisme et fascisme ont une structure semblable. Et il était important de voir et de décrire cette structure. C'est une autre version de la théorie de dire ce sont des religions populaires, ce sont des religions sécularisées. C'est la raison pourquoi les adhérents sont si fanatiques, par exemple. Ils sont épris d'une conception quasi religieuse. La mienne est autre, veut dire que les mouvements totalitaires n'en sont pas parallèles, mais sont combinés par interaction. Et un de ces mouvements est plus ancien et plus bien fondu, plus argumentatif que l'autre. Et c'est le marxisme. Et
dans un temps ultérieur,
j'ai perdu le faden. Ce que je veux dire est que pour moi, la relation historico-génétique est importante et décisive. Non la relation parallèle, structurelle, mais la relation de genèse. Et cette genèse est que le mouvement marxiste, que est le mouvement, ou voulait être le mouvement des ouvriers, un mouvement dans tout le monde, dans toute l'Europe au moins, que ce mouvement avait des adversaires. Comment combattre un mouvement que a tant d'avantages dit, maintient que le grand nombre des hommes est incliné vers cette idéologie. Les ouvriers deviennent la majorité, la grande majorité, etc. Que faire avec une idéologie comme celle? Naturellement, le libéralisme peut s'opposer et s'oppose toujours. Et dit l'idée d'une économie forcée, d'une économie de plan, est une fausse idée. Peut convaincre non peu de personnes, ce sont les libéraux. Mais les libéraux sont toujours une minorité, une petite minorité en quelques cas. Si il y a une autre possibilité, c'est la possibilité d'imiter ce mouvement originaire, ce mouvement initial, de l'imiter, d'être aussi radical que lui, mais comme dans une position hostile. Hitler, par exemple, a dit une fois, nous devons développer un anti-bolchevisme avec une décision bolchevique. L'opposite qui est semblable à l'adversaire. Et c'est caractéristique pour le mouvement fasciste. Et c'était une des raisons que m'intéressait.
Alors, en établissant un lien entre communisme et fascisme, vous allez provoquer ce qu'on appelle la querelle des historiens. C'est ce que nous allons voir, Ernst Nolte, après cette deuxième pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert où, jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kanz.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Ernst Nolte qui vient de publier aux éditions du Rocher « Entre les lignes de front », une série d'entretiens avec un de ses disciples, Siegfried Gerlich, et la collection bouquins des éditions Robert Laffont vient de publier un ensemble de textes, toujours d'Ernst Nolte, « Fascisme et totalitarisme », une édition établie et présentée par Stéphane Courtois. Alors, avant cette deuxième pause, nous avons largement présenté ce qu'on appelle dans votre œuvre le nexus causal. Et en établissant donc un lien entre communisme et fascisme, vous allez provoquer en 1986 ce qu'on appelle la querelle des historiens. Mais vous refusez le statut de provocateur que d'aucuns ont voulu vous attribuer, même si vous le dites dans Entre les lignes de front, il y a une part de défi à aller à l'encontre du sentiment dominant. Il y a un sentiment de défi à aller, au fond, contre le politiquement correct.
Si, d'autre côté, c'est une conception triviale. Au fond, triviale. Que le fascisme et national-socialisme sont de définir comme anticommunisme, c'est clair, ce n'est pas un mystère, c'est un fait. Ils ont dit cela toujours, ils ont agi dans cette manière. Nœud causal est une chose évidente. Anticommunisme ne peut exister sans communisme. Mmh. Et entre communisme, il y a un nœud causal, c'est trivial.
Ce n'est pas diminuer le national-socialisme, vous distinguez toujours dans votre œuvre l'anéantissement social du marxisme, du communisme, et l'anéantissement biologique du national-socialisme.
Le danger de cette approche, de cette méthode, est naturellement d'identifier des phénomènes qui ne sont pas identiques. C'est un certain danger, un misunderstanding. Mais je pense que j'ai été toujours cautious, toujours vorsichtig.
Prudent, toujours prudent.
Et je ne l'ai pas fait, mais il y a un autre fait. Sans cette réalité, il n'y aura été ce grand clameur, ce grand bruit, cette grande empörung.
Indignation.
Si. Je n'ai pas dit que c'est un nœud causal entre communisme et anticommunisme que est trivial, mais un nœud causal entre Goulag et Auschwitz, entre l'annihilation des Goulags, des capitalistes, etc., et l'annihilation des Juifs. Et ça paraît être une chose absolument paradoxale. Force peut-être une chose avec une intention mauvaise. On doit parler franchement. Et j'ai toujours parlé franchement. J'ai dit que les communistes sont des juifs est une idée fausse. On voit que ce n'est pas le cas. Tant de Russes, tant de Français, tant d'Italiens étaient communistes et marxistes et non juifs. Mais néanmoins, déjà avant l'existence du bolchevisme, fut dit, et de beaucoup de juifs même, que c'est un devoir qu'est senti de non de tous les juifs, mais de beaucoup de juifs, comme un devoir principal. C'est le devoir de créer justice dans le monde. L'injustice est une cause contre laquelle beaucoup de juifs, commençant avec les prophètes de la Bible, se sont rebellés. Ce n'est pas une mauvaise qualité, je pense. C'est une bonne qualité. Et dans ce sens, le communisme disait toujours, nous sommes le parti de la justice sociale, de la justice absolue sociale. Il serait été une chose curieuse si un parti avec ses postulats n'avait pas attiré beaucoup de ce groupe que des temps de la Bible avaient la même intention. L'intention de créer justice sociale. Et ça veut dire qu'il y a en fait une connexion essentielle entre juif et communisme dans le sens du postulat de justice sociale. Ce n'est pas une accusation, c'est une remarque que ne peut être niée, que est un fait. J'ai dit ce que beaucoup d'hommes savaient ou au moins devinaient, mais je dois confesser que dans la réalité allemande, un misunderstanding,
un malentendu,
était proche et
sous-jacent,
pouvait passer. Et sous ce regard, j'ai une certaine compréhension pour mes adversaires, mais je leur dis, commencez de penser sérieusement. Et alors, vous ne ferez pas des attaques populistes.
Alors, dans cette affaire, vous avez refusé d'en recourir aux tribunaux malgré la diffamation dont vous avez été la victime et parfois même au risque physique, hein, puisque vous avez été l'objet d'attentats que vous présentez dans votre ouvrage. Et c'est important car au fond, vous dites par là, vous affirmez par là que seul le débat intellectuel prime, est important.
C'est une chose dans laquelle je devrais avoir une parole, une influence. Il y a des réalités que ne peuvent pas être expliquées dans un assemblage politique, avec cette fureur, cette propagande, etc. Mais seulement une atmosphère académique et l'atmosphère juste pour ces arguments. Et je crois que tous mes arguments ont la précondition que qu'elles se passent dans un climat scientifique, non dans un climat de combat politique. Dans ce sens, je voudrais dire que j'ai mon endroit juste chez l'Académie française.
En France, justement, le débat autour de l'histoire et de la mémoire fait intervenir parfois la justice pour trancher les débats, ou parfois même on légifère, il y a des lois sur la mémoire. Comment considérez-vous cela? Est-ce que vous jugez cette attitude normale?
Je pense que la justice n'a pas le droit d'intervenir dans des discussions sérieuses de scientifiques. Même si un érudit dit quelque chose que, à la première vue, est provocative, ça doit être toléré, mais seulement s'il se passe dans l'environ scientifique identifique. Dès le moment où un homme avec une thèse provocative la porte dans les assemblages politiques et fait de la propagande, etc., alors je dirais que le privilège scientifique de la liberté de la science que ne doit pas être impédé et ne doit pas être altéré, ne doit pas être détruite, n'est plus valable. Mais c'est un postulat qui a sa valence dans le milieu académique et scientifique, et non dans la politique. Mais on doit faire quelques corrections aussi dans cette affaire. Si une thèse scientifique qui provoque les hommes ordinaires est très bien fondée, alors il ne serait pas juste de faire une prohibition pour les politiciens. Vous ne devez pas remarquer ça. Je prends un exemple. Un exemple de cette région très sensible, mais qui ne devrait pas être bannie, per così dire, à Auschwitz. Il y avait une grande table sur laquelle était écrite « Ici moururent 4 millions de Juifs ». C'était une table où fut conduit le pape mort, Jean-Paul II, et il est venu sur ses genoux pour beten, pour
prier.
2 ans ou 3 ans plus tard, non un soi-disant révisionniste, mais un membre de l'Institut polonais et communiste d'Auschwitz a dit et montré que les 4 millions n'est pas juste. Il ne pouvait pas être 4 millions. Il coûtait 1 million, 1 million et demi, mais non plus. Si un politicien dans ces assemblages dit « La chose plus terrible dans le monde est le fait que 4 millions de Juifs étaient tués en Auschwitz. » Alors, la simple vérité justifie qu'un autre politicien dit « Ce n'est pas la vérité. » C'était une thèse compréhensible, mais elle a été widerlegt.
Réfutée.
Elle a été réfutée. Aussi, un politicien doit avoir le droit de dire ça. Ce que, au premier moment, seulement un érudit avait. Mais je suis convaincu qu'une certaine diligence est nécessaire. Parce que les politiciens, dans in der Hitze, dans la
chaleur
dans la chaleur du combat, exagèrent, etc. Et des exagérations dans une chose, dans une affaire aussi délicate et sensible, devraient être évitées. Dans ce sens, je voudrais dire que cette diligence, disons antifasciste, disons philo-sémite, qui est toujours très attentif si quelqu'un dit des paroles injustes, n'est pas sans justification. Mais si elle prétend qu'ils disent, est la vérité absolue, que non peut être changé. Par exemple, les 4 millions. Alors, c'est une idée que doit être combattue.
Oui, il faut dépassionner ce débat. C'est ce que vous êtes employé à faire, notamment avec François Furet. C'est ce que je voudrais voir après la toute dernière pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Lucas aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission. Elle est en libre écoute sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission. Mon invité est Ernst Nolte, historien allemand, auteur dernièrement aux éditions du Rocher, un entretien avec un de ses élèves, Siegfried Gerlich, entre les lignes de front. Et dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont, une partie de votre œuvre, Ernst Nolte, a été publiée, Fascisme et totalitarisme au singulier, une édition établie et présentée par Stéphane Courtois. Alors, j'ai souhaité, avant la toute dernière pause, voir justement ce débat. Comment dépassionner le débat, faire en sorte que le passé passe enfin et que l'explication, la compréhension ne soit pas associée à de la sympathie. François Furet, lui, à dépassionner, a réussi à dépassionner ce débat?
J'ai dit, déjà dans le fascisme, dans son époque, que n'existe pas une objectivité pure, une objectivité absolue. Mais les émotions ont un certain droit dans l'historiographie aussi. Par exemple, vous ne pouvez étudier un mouvement politique ou des hommes politiques sans avoir une certaine sympathie pour eux. Ça ne veut pas dire sympathie dans le sens comme homme a sympathie pour une femme, mais une sympathie dans un sens plus général. Sympathien, mitempfinden, ne pas séparer totalement de ces hommes, mais dire ce qu'ils sont est compréhensible, n'est pas juste, mais compréhensible. Nil humani a me alienum puto, c'est un proverbe latin. Rien que est humain, je considère fremd.
Comme étranger, rien de ce qui est humain ne m'est étranger.
Si, que m'est étranger. Dans ce sens, la passion de sympathie a un endroit justifié dans l'historiographie, mais non une polémique que n'a pas d'autre impétus que la haine.
Alors, René Girard, qui est membre de l'Académie française, dans son livre « Achevé Clausewitz », reste pessimiste sur la violence des sociétés. Est-ce que vous, Ernst Nolte, vous partagez ce pessimisme? Est-ce que le terrorisme actuel, pour vous, peut être placé dans la lignée des totalitarismes? Est-ce qu'on assiste à un terrorisme vert? Puisque vous avez étudié l'islam, vous l'avez étudié notamment quand vous étiez professeur en Israël.
Oui, j'ai connu un peu d'Israël et de l'islam durant ce séjour. Mais je me suis occupé dans les dernières années, dernières idées, avec ce phénomène. Et je dirais que les islamistes sont semblables à Charles Maurras, à Adolf Hitler, sans méconnaître les différences, sont semblables dans le sens qu'ils ont l'idée que réalité qu'ils aiment et qu'ils prennent pour très précieux sont en danger. Bin Laden, par exemple, dit « L'Occident crée une forme du mal absolu, veut détruire toute la forme de vie que est l'islam. » C'est un motif qu'on peut comprendre. C'est un motif qu'on peut retrouver dans beaucoup de phénomènes modernes. Et je dirais que dans ce sens, vous ne pouvez dénier sympathie dans ce sens que j'ai décrit aux terroristes. Non quand pour volonté de tuer par un motif subhumain, s'ils le font par le motif de défendre leur genre de vie qu'ils considèrent comme précieux, comme confirmé par l'histoire, alors s'ils ne sont pas forts, et les représentants de l'islam ne sont pas forts dans le sens militaire. Ils sont schwach, ils sont
faibles.
Si. Ils choisissent une méthode que croient est la seule pour avoir une chance de vaincre. Et pour cette motivation, et aussi pour la motivation de Charles Maurras, que disait la France est une déesse. C'est le phénomène meilleur et le phénomène plus beau qu'il y a dans le monde. Peut-être exagéré, mais non sans un noyau rationnel. Sur l'islam, je crois ils ne peuvent pas parler dans la manière de Charles Maurras. Mais ce que disent, c'est une société dans leur idée juste. C'est une idée sans grande différence. C'est une société que connaît Dieu, que veut faire, que veut
révérer
Dieu. C'est bon. Alors j'ai une certaine compréhension et même sympathie dans ce sens pour une réalité attaquée par la modernité. Et je ne suis pas de ceux qui sont des adhérents de la modernité, dans le sens que disent ce qui est moderne est juste et bon. Ce qui est moderne peut être le contraire. C'est mon idée.
Je cite François Furet, hein, en exergue des entretiens que vous avez eus avec lui, Fascisme et communisme. Il dit justement, telle est la toile de fond mélancolique de cette fin de siècle. Nous voici enfermés dans un horizon unique de l'histoire, entraînés vers l'uniformisation du monde et l'aliénation des individus à l'économie, condamné à en ralentir les effets sans avoir de prise sur leur cause. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question. Est-ce que vous partagez ce pessimisme, le pessimisme que l'on retrouve chez René Girard dans vos entretiens avec Siegfried Gerlich? Il parle à votre endroit de tristesse et de mélancolie. Il y a de la tristesse et de la mélancolie chez Ernst Nolte?
Dans un certain sens, je partage la persuasion des progressistes que en ultime instance, je peux dire,
en dernière instance,
il n'y a pas une défense contre cette modernité individualiste, hédoniste, etc., etc. Et que des phénomènes que viennent du passé et qui ont un ethos que n'est pas moderne sont peut-être plus précieux, plus respectés, mais en dernier compte, ils périront dans la confrontation avec cette modernité. Si vous appelez cela une tristesse, c'est la mienne aussi.
Eh bien, Ernst Nolte, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je rappelle les références de l'ensemble de votre œuvre. D'abord, La guerre civile européenne, indispensable, où vous présentez le nexus causal, aux éditions des SIRT, aux éditions du Rocher, vos entretiens avec Siegfried Gerlich, Entre les lignes de front. Toujours chez le même éditeur, aux éditions du Rocher, Les fondements historiques du national-socialisme, qui regroupe un ensemble de conférences prononcées en Italie. Vous avez été invité par le professeur Amato à Milan, et enfin chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, Fascisme et totalitarisme, qui reprend un ensemble d'articles et votre œuvre initiale, Le fascisme en son époque. Merci beaucoup Ernst Nolte, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.